Radio J.
Radio J.
Bonjour à tous, il est 5h, merci de vous réveiller avec nous sur Radio J. Vous pouvez nous écouter sur radioj.fr. Bienvenue à toutes et à tous dans le Grand Journal. Jeudi 21 novembre, 20 Rejvan 5785 et 101 personnes sont toujours retenues en otage à Gaza. Ne les oublions pas, vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et nous suivre en vidéo sur nos chaînes YouTube, X et Facebook. Tout de suite, le premier journal de l'après-midi sur Radio J avec Ethanit Vilej. Bonjour Ethanit.
Bonjour Steve, bonjour à tous.
Et à la une de l'actualité, la Cour pénale internationale émet des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant.
Le dirigeant du Hamas, Mohamed Deif, successeur d'Ismaël Haniyeh, est également visé alors que Tsahal a annoncé l'avoir tué en juillet dernier. La Cour a des motifs raisonnable de croire que Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant portent la responsabilité pénale des crimes suivants. Le crime de guerre consistant à utiliser la famine comme méthode de guerre, ainsi que des crimes contre l'humanité, parmi lesquels des meurtres, des persécutions et d'autres actes inhumains. Et puis la perpétration d'attaques intentionnellement dirigées contre la population civile, rapporte la CPI dans un communiqué. Ils seront tous deux passibles d'arrestation s'ils seront dans l'un des 120 pays membres de la Cour pénale internationale. Plusieurs membres de l'exécutif israélien accuse d'ores et déjà la juridiction d'antisémitisme.
Et on y reviendra en deuxième partie, notamment avec Pascal Zonshine depuis Jérusalem. Sur le terrain, une quinzaine de roquettes ont été tirées vers la Galilée, dans le nord d'Israël, en début d'après-midi.
Plutôt une attaque à la roquette à Nahariya a fait un mort, un homme âgé d'une trentaine d'années qui a été retrouvé sans signe de vie. Plusieurs blessés ont également été signalés. Environ 25 roquettes ont été tirées vers la ville en fin de matinée. Toujours sur le front nord, Tsahal a dévoilé le nom d'un soldat tué hier lors d'un incident au cours duquel un chercheur civil est entré dans le sud du Liban pour visiter un site archéologique sans les autorisations requises. Le soldat est le sergent Gour Kherati, 20 ans, du 13e bataillon de la brigade Golani, originaire de Nir Banim. Il a donc été tué aux côtés de Zeev Erlir, 71 ans. Une enquête sur cet incident a été ouverte par Tsahal.
Au Liban, l'armée israélienne a ciblé la banlieue sud de Beyrouth. Elle a émis de nouveaux ordres d'évacuation dans le secteur.
De nouvelles frappes ont touché le bastion du Hezbollah en début, mais aussi en fin de matinée, et ce après une accalmie de plusieurs jours en raison de la visite de l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient. La région de Tyr dans le sud du pays a également été visée.
L'émissaire de Joe Biden en déplacement en Israël justement a rencontré Benjamin Netanyahou au sujet d'un éventuel cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.
La rencontre entre le premier ministre israélien et Amos Hochstein s'est en effet achevée il y a un peu plus de 30 minutes. L'envoyé spécial a atterri en Israël hier soir en provenance du Liban, Daniel Haïk.
Après deux jours de négociations à Beyrouth, il s'est entretenu avec le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, qui est très proche de Benjamin Netanyahou. Il a confirmé qu'il y avait eu des progrès. Un accord pourrait intervenir d'ici la semaine prochaine. La pierre d'achoppement, pour parler actuellement, demeure toujours l'exigence israélienne de pouvoir agir au sud Liban sans délai et librement en cas de violation par le Hezbollah de l'accord. Côté israélien, on craint en effet que la commission internationale de contrôle, qui doit être composée dans le cadre de cet accord de membres américains et européens, n'entrave la capacité de réaction immédiate de Tsahal au sud Liban.
Notre correspondant en Israël, Daniel Haïk, a noté qu'Amos Hochstein doit encore rencontrer le ministre de la Défense, Israël Katz, dans une heure.
Dans le reste de l'actualité israélienne, Benjamin Netanyahou propose une enquête politique à la place d'une commission d'État sur les massacres du 7 octobre 2023.
Le Likoud, sous l'impulsion du Premier ministre, a en effet finalisé un projet de loi visant à établir une commission d'enquête politique sur les événements du 7 octobre, bloquant explicitement la création d'une commission d'État indépendante. Le texte qui devrait être présenté par le député Boaz Bismuth stipule qu'aucune enquête concernant le massacre de Simchat Torah 5784 ne pourra être menée autrement que selon cette loi. L'initiative a suscité une vive opposition. Nous qui avons perdu nos êtres les plus chers le 7 octobre n'accepterons pas la création d'une commission politique, a déclaré le Conseil d'Octobre, une organisation de familles de victimes. Lors d'une conférence sur l'enseignement supérieur à Herzliya, dans le centre du pays, le président Yitzhak Herzog a lui dénoncé le traitement dénigrant et humiliant infligé aux familles des otages, mais aussi les tensions qui règnent en Israël.
Que nous arrive-t-il? Est-ce que cela a du sens? N'avons-nous pas assez souffert? N'avons-nous pas déjà compris que cela portait atteinte à la sécurité de l'État? N'avons-nous pas compris que c'est ainsi que l'on brise un État? La violence physique et verbale envers la conseillère juridique du gouvernement, envers le chef du Shin Bet, envers le chef de l'État-major, envers le Premier ministre, est tout simplement horrible. Il y a ceux qui se sacrifient pour le pays et qui le payent de leur vie chaque jour, et il y a ceux qui détruisent le pays. Je promets de les combattre de toutes mes forces. Je vous préviens, vous détruisez le pays. Il faut arrêter cette folie.
Le président israélien Yitzhak Herzog ce matin.
On se dirige à présent vers les États-Unis où la gauche échoue à limiter les livraisons d'armes à Israël.
Le Sénat américain a rejeté hier une série de propositions législatives présentées par le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders visant à restreindre les transferts d'armes à l'État hébreu. Les trois textes portaient chacun sur un type d'équipement militaire différent ont tous été rejetés à une large majorité. La première résolution notamment qui appelait à suspendre la vente d'obus de chars à Israël a été rejetée par 79 voix contre, 18 pour et une abstention.
En France, la coordination rurale principale, syndicat agricole mobilisé sur le terrain aujourd'hui, maintient son blocage du port de commerce de Bordeaux et la pression sur le gouvernement.
Le site investi hier soir par les manifestants était toujours bloqué ce matin. Le deuxième syndicat agricole revendique 200 manifestants et quelques 80 tracteurs sur place. Pour le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, la cause est juste, mais il y a des limites.
Quand je vois que sans doute un membre de la coordination rurale a brûlé, a enflammé dans une direction du territoire, la DTTM à Mont-de-Marsan, alors qu'il y avait du personnel à l'intérieur, ça n'est pas acceptable. La manifestation, le droit de manifester est constitutionnel et les limites pour les agriculteurs sont les mêmes limites que pour l'ensemble de nos concitoyens.
Bruno Retailleau ce matin sur CNews. Sa collègue, la ministre de l'Agriculture, a effectué sa première visite sur le terrain depuis le retour des agriculteurs dans la rue, visite dans le Pas-de-Calais. Elle a notamment promis des annonces en matière de simplification dans les prochains jours.
Enfin, avec l'arrivée de la tempête Katrina, l'hiver s'invite sur l'Hexagone où 58 départements sont placés en vigilance orange pour cause de neige, verglas et vent fort.
Cette dépression va traverser la France d'ouest en est et provoquer un épisode hivernal précoce. C'est suffisamment notable pour rendre des conditions de circulation difficiles dans les régions concernées, prévient d'ores et déjà Météo France. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, assume de ne pas faire circuler certains trains si nécessaire. Écoutez.
Il y a deux grandes bandes qui nous inquiètent. La bande nord, c'est la neige. Et quand il y a trop de neige, ça peut gêner la circulation des trains, les aiguillages par exemple qui sont moins bien. L'autre bande, la bande centrale, c'est le vent. Le vent, ça fait tomber les arbres sur les voies, donc on est très attentif. Et la consigne, elle est très claire, c'est la sécurité d'abord. Si à cause de la météo, il n'est pas prudent de faire partir un train, ben on ne le fait pas partir. Donc il vaut mieux, par prudence et pour sécurité de nos voyageurs, de dire on ne fait pas partir les trains.
Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, au micro de nos confrères de RTL ce matin, notait donc de potentielles annulations de trains liées à la météo. Par ailleurs, quelques perturbations sont signalées en région parisienne en raison d'une grève à la SNCF. Les lignes R du Transilien et le RERD sont les plus touchées, avec seulement un train sur trois en circulation.
Soyez prudents et couvrez-vous. Merci Tanit, on vous retrouve dans 20 minutes à peu près pour un nouveau rappel des titres à suivre la politique.
Radio J. Steve Nadjar.
Bruno Fuchs était l'invité ce matin de Christophe Barbier dans le Morning de Radio J. Que pense le député MoDem du Haut-Rhin et président de la Commission des Affaires étrangères de la création d'un groupe d'amitié France-Palestine à l'Assemblée nationale ? Écoutez sa réponse.
Le groupe d'amitié France-Palestine qui s'est créé hier, alors que la Palestine n'est pas un État, qui n'est pas membre de l'ONU, qu'il n'y a pas de relation diplomatique entre la France et cet État, évidemment, et puis que la vie parlementaire dans la Palestine, notamment à Gaza où le Hamas domine, la vie parlementaire est réduite à néant. Tout ça, c'est les règles pour faire un groupe d'amitié. Alors, il n'est pas valable, celui-là ?
Alors, un groupe d'amitié, ça n'a pas d'action tous les jours. Donc, on est sur un plan, notamment avec la Palestine, qui est un plan plutôt symbolique. Nous, parlementaires, c'est la réflexion, je pense, du bureau de l'Assemblée et travaille sur le jour d'après, sur la suite. Si on veut construire une paix et une sécurité pour Israël et une souveraineté aussi pour le peuple palestinien, ce qui est quand même la ligne sur laquelle
les deux États,
part des pays dans le monde se trouvent, il faut penser à la suite. Et donc nous, parlementaires, nous représentons les populations, nous ne sommes pas les États, nous ne sommes pas dans la guerre, nous représentons les populations. Et donc nous sommes là pour essayer de travailler sur la suite et donc trouver des liens, essayer de former à terme des parlementaires, des responsables qui vont pouvoir administrer cette autorité, cette souveraineté palestinienne. C'est bon et pour la souveraineté de la Palestine et pour la sécurité des populations israéliennes. Donc là, on travaille sur l'avenir.
Est-ce que vous projetez dans l'avenir? Ça vous incite à être pour la reconnaissance d'un État palestinien par la France, comme l'ont fait d'autres pays?
Oui, je pense que la France a cette position depuis très longtemps. Après, c'est comment cet État peut être administré. On voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité politique en Palestine pour administrer un État. Ça ne va pas être le Hamas qui n'existe plus, fort heureusement. et même l'autorité palestinienne qui n'a pas démontré sa capacité.
Donc on ne reconnaît pas aujourd'hui.
On ne reconnaît pas aujourd'hui, il faut attendre le bon moment, et surtout il faut trouver, à mon avis, et là on est dans des schémas de moyen terme, pour trouver une autorité qui administre cet État, ou en tout cas cette entité, pendant un moment, avant que les Palestiniens eux-mêmes aient cette capacité politique
de le souverain.
Faire. D'où l'intérêt d'un groupe d'amitié de commencer à créer des liens. Et d'abord, que ce groupe existe déjà au Sénat. Donc, ne polarisons pas là-dessus. La question, c'est le coup d'après. D'ailleurs, avec la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, nous allons travailler sur une conférence internationale sur le jour d'après. Quelles sont les solutions? Et donc, je pense que nous, parlementaires, on n'est pas au cœur de la guerre. On a des positions là-dessus. Mais on doit préparer justement la construction et la capacité d'avoir des forces politiques qui permettent la sécurité et la paix dans la région.
Le député MoDem du Haut-Rhin, Bruno Fuchs, ce matin sur Radio J. Vous retrouverez Christophe Barbier dès demain à partir de 7h45 dans le Morning d'Ilana Ferradian.
Je remettrai demain matin ma démission au président de la République.
Il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures.
Quand on prend les Français pour des abrutis, en général, ils s'en souviennent.
Il n'est hors de question que nous puissions rentrer dans un gouvernement qui augmente les impôts.
Je ne vois pas en quoi cette procédure complètement infondée est utile aux Français.
Et donc, évidemment, nous censurerons.
La chronique politique de Mathieu Slama. Bonjour Mathieu.
Bonjour Steve.
Et merci de nous rejoindre. Mathieu, vous revenez cet après-midi sur une enquête commandée par le CRIF à l'Ipsos sur l'antisémitisme, une étude dont vous avez trouvé les résultats édifiants.
Oui, alors c'est une étude qui est quand même très instructive et qui est un peu terrifiante parce qu'elle nous dit une chose qu'on sait, mais qui le confirme encore plus, c'est qu'il y a une explosion de l'antisémitisme en France. Il y a deux choses qui m'ont marqué, mais la première, c'est la jeunesse. J'ai été frappé à quel point l'antisémitisme s'était introduit dans les esprits chez les jeunes. Seulement 53% des 18-24 ans pensent que la majorité des juifs est bien intégrée dans la population. Et c'est 84% des Français. Donc, c'est très très inquiétant ça. Le fait que chez les jeunes, il y a ce sentiment de plus en plus grand que les juifs ne sont pas bien intégrés en France. Et 17% des moins de 35 ans...
Et donc, ils ne sont pas de bons Français, c'est ça le...
Voilà, exactement. J'y reviendrai après, mais 17% des moins de 35 ans jugent que leur départ de France serait une bonne chose. 17% des moins de 35 ans. Donc, on a là quand même, dans la jeunesse, ou en tout cas les forces vives du pays, entre guillemets, une montée des préjugés antisémites qui... En revanche, en effet, se reflète dans tout le pays. Et ça aussi, c'est mon deuxième point qui me paraît tout à fait effrayant pour quiconque, d'une part, se préoccupe de la question de l'antisémitisme, plus globalement de l'antiracisme. Aujourd'hui, 46% des Français adhèrent à plus de 6 préjugés anti-juifs. Et c'était en 2020, 37%. Donc on voit une montée quand même exponentielle. Et
donc un préjugé anti-juif, c'est les juifs ont trop de pouvoir, ils sont
voilà,
trop
les lobbies, trop de
dans
pouvoir,
les médias.
Soudés entre eux, des soutiens naturels à Israël et sont liés de facto à la politique du gouvernement israélien, mais c'est surtout des préjugés sur le fait qu'ils ne sont pas des bons Français, etc., etc. Donc ça veut quand même dire que on a un énorme problème aujourd'hui par rapport à la question d'antisémitisme, évidemment, qui se retrouve de l'extrême droite à la gauche radicale. Et ça, évidemment, c'est aussi quelque chose qui est peut-être aussi une nouveauté aujourd'hui.
Mathieu, quand on lit que 46% des Français adhèrent à plus de 6 préjugés anti-juifs, ça veut dire que ces idées, ces préjugés sont bien ancrés dans une majorité, en tout cas d'une partie importante de la population aujourd'hui.
Voilà, ça veut dire que partout, dans toutes les catégories sociales, en fonction des idées politiques, etc., on y reviendra, mais les préjugés antisémites sont extrêmement présents. Alors, en fait, il ne faut pas être naïf, hein, l'antisémitisme a toujours existé, existera toujours, c'est en quelque sorte un immuable des sociétés, quelle que soit l'époque. Mais enfin, on voit bien que là, il y a une montée.
Et ça dépasse l'électorat des seuls partis radicaux d'extrême gauche ou d'extrême droite.
C'est un peu partout. Mais en effet, ça se retrouve en particulier, évidemment, à l'extrême droite, qui est le lieu qui nourrit l'antisémitisme historiquement, mais aussi au sein de la gauche et de la gauche radicale. Donc, on voit bien que c'est une montée un peu partout. Et avec cette idée, quand même, un quart des sondés, c'est pas rien, qui pensent que les Juifs ne sont pas vraiment des Français comme les autres. Donc, il y a cette idée, et je crois que c'est aussi ça qu'il faut retenir, c'est qu'en France, il y a cette idée qui montre que les Juifs ne sont pas vraiment Français, que ce sont finalement des étrangers de l'intérieur, qui est quand même un trope antisémite classique, mais qui est finalement le prélude à potentiellement des choses beaucoup plus graves. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Des gens qu'on considère qui ne sont pas assez français, qui ne sont pas assez intégrés, qui sont manipulateurs, qui contrôleraient la marche du pays, etc. Souvent, c'est le prélude à des choses beaucoup plus graves. Donc c'est ça aussi qui doit nous inquiéter et qui doit aussi nous amener à lier la question de l'antisémitisme à la question de l'antiracisme plus globalement, parce qu'on voit aussi que les préjugés racistes envers notamment les musulmans ou les arabes de manière plus globale jouent aussi sur ce côté-là. Sur ils ne sont pas assez français, ils ne sont pas assez intégrés et que finalement leur départ serait une bonne chose. Donc on voit bien que il y a quand même une continuité du racisme, de l'antisémitisme au racisme, ce que je trouve intéressant en tout cas à observer et à analyser.
En même temps, c'est parfois souvent notamment au sein de la gauche radicale, c'est au nom de l'antiracisme voilà, que des oui. préjugés anti-juifs se diffusent.
Alors, il y a à gauche, en effet, cette une partie de la gauche, hein, parce que le sondage montre aussi que l'antiracisme est bien ancré à gauche, plus ancré à gauche qu'ailleurs, mais qu'en effet, il y a une montée de l'antisémitisme aussi à gauche, notamment au sein de la gauche radicale et de LFI, et des électeurs de LFI. Et ça, il ne faut pas être aveugle là-dessus. Mais en effet, il y a des deux côtés, si vous voulez. Il y a une partie de la gauche... qui considère que on a un problème avec les juifs souvent lié au conflit israélo-palestinien avec je vais pas y revenir mais la notion de sioniste etc qui est souvent le paravent de l'antisémitisme. Donc on accuse finalement les juifs de tous les maux par rapport à un contexte géopolitique et puis c'est aussi pour d'autres raisons d'ailleurs. Et puis à l'extrême droite, c'est le contraire, c'est on va accuser les arabes, les musulmans de tous les maux et utiliser la question de l'antisémitisme à des fins politiciennes, etc. Donc on se retrouve en fait bloqué dans notre pays avec, encore une fois, une montée quand même qui est généralisée de l'antisémitisme qui est quand même très inquiétante.
Merci beaucoup Mathieu Slamat d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre chronique sur radioj.fr, sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi et à jeudi prochain.
Bon après-midi.
Radio J. Steve Nadjar.
Après la politique, on va marquer une première pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de votre grand journal. Nous retrouverons Pascal Sunshine et le président du consistoire central Élie Korchia en direct du Cotel pour un événement exceptionnel. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins à 7h45 sur Radio J. Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Les voix du judaïsme de Maurice Ruben Ayoun. Bible, Talmud, Ashkenaz et Séfarad, pratiques synagogales et piété personnelle, tradition et réforme. C'est avec pédagogie que Maurice Ruben Ayoun nous fait voyager des origines à aujourd'hui. Cette galerie encyclopédique montre la fécondité intellectuelle qui a permis au judaïsme de ne jamais être en retard d'une modernité dans un attachement indéfectible à l'identité d'Israël. Les voix du judaïsme de Maurice Ruben Ayoun. Les éditions du CERF. Un livre riche, accessible, stimulant.
Avec les audioprothésistes Unisson, retrouvez le plaisir d'entendre et sans vous ruiner. Jusqu'au 31 décembre, profitez des remises exceptionnelles. Et oui.
Et oui, jusqu'à 500 euros sur les appareillages auditifs les plus performants du marché.
Unisson vous propose les appareils auditifs les moins chers de France. Dans 14 centres dans toute la France, dont 5 à Paris et en Ile-de-France.
Unison.com.
Unisson.com.
Unisson.com.
La vente des appareils auditifs est soumise à prescription médicale, préalable et obligatoire.
Radio J. Le grand journal, Steve Nadjar. Radio J.
Merci d'être avec nous sur Radio J en direct pour le début de la deuxième partie du grand journal. Vous nous écoutez sur radioj.fr et nous suivez en vidéo, notamment sur notre chaîne YouTube. Vous êtes très nombreux cet après-midi. Merci à vous. Direction maintenant, Jérusalem.
Pascal
Sunshine. Bonjour Pascal.
Et
Et merci de nous rejoindre en direct depuis Jérusalem. Vous êtes notre correspondante permanente sur place. L'information de l'après-midi, c'est l'émission par la Cour pénale internationale de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, ainsi que contre Mohamed Daif. Les détails avec vous, Pascal.
Oui, concernant les deux dirigeants israéliens, une décision prise à l'unanimité des trois juges français, roumains et béninois de la première chambre préliminaire de la CPI qui déclare avoir trouvé des fondements raisonnables pour croire que le premier ministre israélien et son ancien ministre de la Défense portent une responsabilité pénale pour le crime de guerre de famine utilisé comme une arme de guerre et de crimes contre l'humanité, de meurtres, persécutions et autres actes inhumains, selon les termes de la décision. Les juges ont encore indiqué que la privation de vivre, d'eau et d'électricité ont créé des conditions de vie calculées pour la destruction d'une partie de la population civile de Gaza, qui a eu pour effet la mort de civils, y compris des enfants, dus à la malnutrition et à la déshydratation. De même, la CPI accuse les deux dirigeants israéliens d'avoir intentionnellement limité ou empêché la fourniture de médicaments, d'anesthésiques et d'autres matériels médicaux pour infliger une grande souffrance par des actes inhumains contre des personnes qui avaient besoin de traitement. On le voit donc, des accusations extrêmement graves et sans précédent. C'est la première fois que la Cour pénale internationale de La Haye poursuit les dirigeants d'un pays démocratique et doté d'un système judiciaire indépendant. Israël, on le sait, ne reconnaît pas la compétence de la Cour pénale de La Haye, mais cela ne change rien à la validité des mandats d'arrêt qu'elle a pris et qui doivent être appliqués par tous les 124 États signataires du statut de Rome qui accueilleront Benjamin Netanyahou ou Yoav Gallant sur leur territoire.
Quelles ont été les réactions côté israélien à cette décision ?
Évidemment, le choc et l'indignation en Israël. La classe politique est unanime à dénoncer une décision honteuse et clairement antisémite. Le bureau du Premier ministre a dénoncé une mesure scandaleuse, inique et mensongère. Une affaire Dreyfus des temps modernes, a indiqué le bureau du chef du gouvernement. Le député d'opposition Benny Gantz a condamné un aveuglement moral de la CPI et une honte historique qui ne s'effacera jamais. Le député travailliste Gilad Kariv a dénoncé une décision immorale et dangereuse qui revient à nier à un État tout droit à se défendre et qui doit inquiéter l'ensemble du monde libre. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, a parlé d'un jour noir pour la Cour pénale de La Haye, qui a perdu toute légitimité. Elle est devenue un outil politique entre les mains d'acteurs les plus fanatiques qui cherchent à ébranler la paix, la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient, a donc déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères. Enfin, le président israélien Yitzhak Herzog parle d'une décision scandaleuse qui a fait de la justice universelle un sujet universel de moquerie et de dérision. Elle tourne en dérision le sacrifice de tous ceux qui se battent pour la justice et elle ignore la détresse des 101 otages, a affirmé le président de l'État d'Israël.
Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous en direct de Jérusalem. Bon après-midi, à demain.
Radio J, le grand journal, Steve Nadjar.
Et on reste dans la capitale israélienne où nous attend le président du consistoire central. Bonjour Eli Korshia.
Bonjour Steve.
Et merci de nous rejoindre depuis le Kotel où vous participez à un événement exceptionnel, la bar et bat mitzvah de 100 enfants résidents du sud d'Israël. Eli Korshia, comment d'abord est né ce projet organisé et mené à bien à la fois par le consistoire central que vous présidez et le Keren Hayesod?
Exactement Steve, c'est un projet magnifique qui m'avait été proposé pour Yom HaTzmaout, pendant Yom HaTzmaout, par mes amis du Keren Hayesod et sa présidente Judith Hox qui est avec nous. Et c'est un projet qui m'a tout de suite intéressé parce que venir en soutien après le 7 octobre, dans cette année terrible qu'a vécu Israël pour les enfants et pour leur bar mitzvah et pour leur bat mitzvah pour les filles, c'était un magnifique geste de solidarité. Et nous l'avons mené à bien. Nous l'avons mené à bien avec beaucoup d'amis, de communautés juives à travers la France en partenariat avec le Keren Hayesod. Et nous sommes là devant le Kotel pour cette grande cérémonie depuis tout à l'heure avec 100 enfants, des jeunes filles qui fêtent leur bar mitzvah, des garçons qui fêtent leur bat mitzvah et certains sont à côté de moi et des familles, bien évidemment avec les parents, ces familles qui ont été déplacées depuis le 7 octobre dans le sud d'Israël, autour d'Ofakim, autour de Sderot, comme vous le savez, qui ont des logements précaires et qui ont été dans des hôtels, dans des logements de substitution et nous sommes tous réunis pour leur faire la fête aujourd'hui au Kotel, avec le grand rabbin d'Israël qui était là avec nous, le nouveau grand rabbin d'Israël, le Rishon Etzion David Yosef Shlita, qui était avec nous, avec tous les enfants, dans un moment d'émotion incroyable, devant
c'est
le
ça,
potel.
Élie Corchet, je vois, on peut suivre avec vous sur le live YouTube de la radio ces enfants autour de vous, ces jeunes garçons à qui j'adresse tous mes voeux de Mazal Tov. L'émotion doit être particulièrement vive dans le contexte actuel d'être là, réunis avec d'autres enfants qui partagent ce même moment de joie et de fête autour de leur bar mitzvah devant le potel. C'est magnifique.
Exactement, et pour être tout à fait honnête, il y a encore un mois hein, après les fêtes de Tichri, avec la guerre qui s'était déclenchée, qu'Israël devait mener contre le Hezbollah dans le nord du pays, je ne savais même pas, et mes amis du Keren Hayesod et du Consistoire de France autour de moi, nous ne savions pas si nous pourrions maintenir un tel événement avec une telle portée, en faisant venir du sud d'Israël 100 enfants, avec évidemment leurs parents, des membres de leur famille. Vous imaginez, c'est près de 250-300 personnes qui sont arrivées tout à l'heure dans des cars au Kotel, à Maravi. Et donc c'est un moment d'une immense émotion et qu'on ait pu maintenir cette action, ce grand projet de la communauté juive de France, solidaire d'Israël et des enfants, à travers leur bar mitzvah et leur bat mitzvah. C'est un moment d'immense émotion que nous vivons depuis le début de l'après-midi et que nous allons poursuivre tout à l'heure, bien sûr.
Parce que c'est pas terminé, il y aura une fête, donc une grande fête pour tous ces enfants et leurs familles, ce soir dans un très grand hôtel de Jérusalem.
Exactement, dans un endroit magnifique au Waldorf Astoria, à Mamila, à Jérusalem. Et nous allons tout à l'heure faire une fête extraordinaire avec tous les enfants, avec leurs parents. Il y aura des personnalités qui nous rejoindront et nous allons faire une grande fête parce qu'ils ont passé une année difficile, une année sombre, une année anxiogène pour chacune d'entre elles, chacun d'entre eux. Et les enfants, ce soir, ce sera le moment uniquement de la fête, de la simcha, de la joie. Et ils vont avoir une très, très belle fête de Bar Mitzvah tous ensemble avec nous, avec le Consistoire de France, avec le Keren Hayesod de France. Nous allons passer ce soir un grand, grand moment encore.
Élie Corchet, face au succès de cette magnifique opération, est-ce que vous envisagez déjà de mettre en place d'autres projets de cette ampleur, par exemple pour les familles déplacées du Nord, ou non plus cette fois pour les Bar Mitzvah, mais peut-être pour des futurs mariés?
C'est possible. Je vous avoue, Steve, que maintenant que nous avons, et je le dirai un petit peu mieux après ce qui se passera encore ce soir, évidemment avec la grande fête des 100 Bar Mitzvot et Bat Mitzvot, mais il est évident que depuis que je suis arrivé en Israël, tout le monde m'en parle et tout le monde me dit c'est extraordinaire, mais il faudra peut-être aussi refaire quelque chose pour les enfants du Nord d'Israël après les derniers mois qu'ils ont vécu. Et nous referons, je l'espère, je le dis devant le Kotel ici, nous referons, je l'espère, un grand événement de ce type. Il ne faut pas que ça reste comme une action, même si elle est magnifique, une action isolée. Bezrat Hashem, j'espère que le succès de cette opération, de cette grande action pour les 100 bar mitzvot et bat mitzvot du sud d'Israël, des enfants du sud, eh bien j'espère que nous pourrons le refaire aussi pour ceux qui sont dans le nord et qui vivent aussi actuellement une période difficile, parce qu'évidemment un des challenges, c'était de maintenir cette grande action et de faire cette action en pleine guerre, évidemment, pour Israël.
Élie Corchet, pour terminer, qu'est-ce que vous disent ces enfants qui sont autour de vous, que je vois très souriants, de rencontrer aussi une communauté juive française qui vient à leur rencontre et qui contribue à leur fête et à leur joie?
Ils sont très émus, ils sont très touchés, évidemment. D'abord, c'est la fête pour eux. Ils sont partis ce matin des villes du sud d'Israël. Donc, évidemment, il y a une ambiance extraordinaire avec leur famille. Bien sûr, c'est très, très émouvant. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir que depuis qu'ils sont arrivés, ils sont dans la joie. Et on les a reçus tout à l'heure avec effectivement le grand rabbin d'Israël qui les a bénis tout à l'heure avec beaucoup d'émotion. Et là, je peux vous dire qu'ils sont encore dans la joie et surtout, ils se préparent à faire la fête ce soir. Ils vont peut-être vous dire un petit mot, si vous êtes d'accord.
On les écoute.
On est là en direct. Ils vont dire un petit mot en hébreu, bien évidemment.
Hi, anachnu Israël. Mais Israël, mon fakim, anachnu.
Machab shakab.
On s'est dit tout d'âge, c'est très bon.
Alors, ces enfants viennent d'Ofakim. Ils remercient tout le monde d'avoir organisé le consistoire, donc d'avoir organisé cet événement.
Exactement. La plupart des enfants viennent d'Ofakim, de Sderot, des villes du sud d'Israël. Et donc, voilà, ils sont heureux, évidemment, d'être là. Et avec leurs parents, tout à l'heure, quand ils sont tous arrivés au son du chauffard et de la musique, je peux vous dire que c'était un moment, l'entrée vers le Kotel était un moment extraordinaire.
J'imagine.
Que nous avons vécu tous ensemble.
Eh bien, un grand Mazal Tov à tous ces enfants, ces filles et ces garçons, à leur famille. Et bravo, Chazak Ubaor, cher Élie Corchet, pour ce magnifique projet mené par le Consistoire Central et par le Keren Hayesod. Élie Corchet, on vous retrouvera demain, comme tous les vendredis, à 7h20 dans le morning d'Ilana Ferradian. Encore une belle journée de fête pour les prochaines heures et à demain. Et au revoir, les enfants. Mazal Tov.
Au revoir.
À bientôt. Vous pourrez venir.
Radio J, 5h30, bonjour et bon réveil, merci d'être avec nous dans le Grand Journal. Bienvenue si vous nous rejoignez, à suivre le rappel des titres. Radio J. Les dernières infos en Israël, en France et dans le monde avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Steve, bonjour à tous. La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt internationaux contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant. Le monde politique en Israël a condamné cette annonce. Le président de l'État hébreu évoque un sombre jour pour la justice et l'humanité. Sur le terrain, Tsahal a frappé des centres de commandement du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth cet après-midi. La région de Tyr dans le sud du Liban a également fait l'objet de frappes israéliennes ce matin. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir tiré un missile intercontinental contre son territoire, ce qui constituerait un usage inédit de ce type d'armement dans un conflit dans le monde. Selon Kiev, la frappe a été lancée depuis la région russe d'Astrakhan, à un millier de kilomètres de la zone touchée. Enfin, en France, l'hiver s'invite sur l'Hexagone où plus de 50 départements sont placés en vigilance orange, neige, verglas et vent. Les premiers flocons de la tempête Caetano sont tombés ce matin sur la Bretagne et la Normandie, où les conditions de circulation sont très délicates, selon Bison Futé.
Merci Tanit, à tout à l'heure dans une demi-heure pour un nouveau journal en direct sur Radio J.
Radio J.
Radio J. Radio J.
Le programme de la prochaine demi-heure sur Radio J. Dans quelques instants, nous retrouverons Arié Bensemoun au sujet de la dernière décision de la CPI contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. On écoutera également Gilles Kepel, Franck Tapiro et Chaim Nissenbaum. A tout de suite.
Les infos week-end. Eva Soto.
Tous les dimanches, je vous donne rendez-vous à 6h20 et à 8h20 avec l'écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien Vladimir Fedorovski, le personnage emblématique de la perestroïka, décryptage, histoire, anecdote. C'est tous les dimanches sur Radio J.
Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais.
Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr.
Tzedaka.fr.
La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir.
Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
Je n'ai pas dit mes derniers mots. Un seul en scène de Bernard Bitan. Un spectacle percutant, engagé et émouvant. Bernard Bitan met des mots sur les mots du peuple juif.
Bernard Bitan revient avec son spectacle à l'Écuge, lundi 18 et jeudi 21 novembre à 20h30.
Écuge, 119 rue Lafayette, Paris 10. Réservation sur écuge.fr.
Écuge.fr.
Je n'ai pas dit mes derniers mots de Bernard Bitan.
Spectacle d'actualité et solidaire d'Israël en partenariat avec Radio J.
Radio J.
Le grand journal, Steve Nadjar.
Radio J.
La troisième et dernière partie du grand journal. Merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer sur l'actualité, notamment au Moyen-Orient. Vous nous écoutez peut-être sur radioj.fr. On retrouve à présent Arié Bensemoun.
Radio J. Le grand journal, Steve Nadjar.
Bonjour Arié.
Bonjour Steve.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur exécutif d'Elnet France. Votre première réaction à l'émission de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant par la Cour pénale internationale. C'est une surprise vous pour vous
C'était pas une surprise parce que nous y attendions. Nous pensions bien que Karim Khan allait diligenter donc cette mise en accusation et allait prononcer le mandat d'arrêt international contre Netanyahou et Yoav Gallant, mais c'est un jour noir pour la démocratie, pour la justice internationale, pour les
institutions. Décidé par trois juges, notamment un Français.
Oui, alors décidé par trois juges qui sont finalement sous la pression de ceux qui constituent aujourd'hui cette Cour pénale internationale, c'est-à-dire l'ensemble des États dictatoriaux et faillis de la planète. On est dans une justice qui est politisée, instrumentalisée, et en l'occurrence, ça crève les yeux, que ce soit la Cour internationale de justice qui juge les États et qui juge Israël dans les conditions que nous connaissons, qui émet des avis qui sont complètement hurluberluesques, on pourrait le dire comme ça, ou que ce soit la Cour pénale internationale qui juge les personnes, eh bien, dans les deux cas, on voit bien que c'est une justice à charge, c'est une justice biaisée, qui s'appuie non pas sur des faits établis, mais sur des calomnies, des mensonges, sur des allégations mensongères, parce que, qu'on le comprenne bien, il n'y a pas eu d'enquête préalable pour incriminer Netanyahou et Galant, pas plus que la Cour internationale de justice ne diligente d'enquête pour vérifier la nature et la validité des accusations, notamment d'apartheid ou de génocide qui sont prononcées contre Israël. Mais on est là sur quelque chose de totalement arbitraire. Et prononcer un mandat d'arrêt international contre un leader d'une démocratie qui est un état de droit et qui dispose d'une justice indépendante et une justice rigoureuse, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, Steve, tous les dirigeants occidentaux sont à la merci de cette justice à double standard qui peut incriminer tout le monde et n'importe qui sur la base, mais disons-le clairement, de strictement rien, parce que rien n'est étayé par des preuves. Ce ne sont que des accusations qui viennent principalement des Palestiniens, de l'autorité palestinienne et du Hamas. Et c'est des accusations que rien ne peut justifier et qui montrent bien que tout est biaisé, que par conséquent, nous sommes dans une situation de faillite morale, de faillite judiciaire, Ariel, d'effondrement de tout ce à quoi nous sommes censés croire et pourquoi nous sommes censés nous battre.
Beaucoup de réactions à cette décision de la CPI depuis ce midi. L'un des chefs de l'opposition israélienne, Benny Gantz, dénonce cet après-midi un aveuglement moral et une tâche honteuse. Des membres du gouvernement, comme Iri Regev ou Itamar Ben-Gvir, notamment, accusent la CPI d'antisémitisme. Est-ce que vous partagez ce dernier jugement devant cette décision ?
Mais oui, c'est une justice biaisée à charge contre Israël. Et Israël, pas parce que c'est un État pris au hasard, parce que Israël est l'État du peuple juif. On voit bien qu'il y a un combat qui se mène au niveau international. Il y a un front qui a été ouvert depuis quelques années déjà qui s'attaque à Israël. C'est le 8e front dont on ne parle pas suffisamment, mais qui est bel et bien un front où se mène la guerre juridique, diplomatique, pour miner, pour détruire les fondements de la légitimité d'Israël comme État du peuple juif. Donc oui, c'est malheureusement une situation que nous connaissons bien et nous devons nous insurger contre ça. Et j'espère, j'en doute entre nous soit dit, mais enfin, j'espère qu'il y a des démocraties qui vont lever la voix. Je sais que les Américains vont s'élever contre cette décision, d'abord parce que les États-Unis, comme Israël, ne sont pas partis au traité de Rome et par conséquent ne participent pas de la Cour pénale internationale, mais il n'en demeure pas moins que la plupart des autres pays européens, eux, font partie de cette Cour pénale internationale.
Et les Pays-Bas, il y a quelques minutes, ont annoncé qu'ils appliqueront la demande d'arrêt.
Mais oui, mais bien sûr.
Le mandat d'arrêt appliqué à Benjamin Netanyahu ou Yoav Gallant si les deux se rendaient sur le territoire néerlandais.
Mais c'est ce que j'allais vous dire. Si demain, il advenait que Netanyahu ou Gallant décident de se déplacer dans un des pays signataires du traité de Rome et donc partir.
Ils sont 124.
À la Cour pénale internationale, dans ces 124 pays, ils peuvent tout à fait, et je dirais même que d'une certaine manière, les pays signataires de la Cour pénale internationale sont obligés d'exécuter les ordonnances qui sont émises ou les mandats d'arrêt qui sont émis par la Cour pénale internationale. Alors il est clair que cette situation elle crée quand même beaucoup de troubles parce que ça veut dire clairement que Benjamin Netanyahu comme Yoav Gallant ne pourront plus circuler librement dans le monde et en tout cas pas prendre le risque d'atterrir dans un pays signataire comme on vient de le lire à propos vous avez dit de la Hollande ou de la Belgique ?
Les Pays-Bas.
Les Pays-Bas, donc la Hollande, donc signataire de ce traité-là. Donc c'est une situation qui est terrible, on n'a jamais vu une chose pareille. En général, ce genre d'accusations sont portées contre des chefs d'État africains engagés dans des crimes sordides, des guerres civiles, des persécutions ethniques, etc. Mais jamais contre un responsable d'une démocratie. C'est un précédent extrêmement grave. Extrêmement grave.
Merci.
Qui porte un coup fatal, finalement, à la crédibilité et à la stature des institutions judiciaires internationales. Je pense que c'est une page qui vient de s'ouvrir. On aura l'occasion d'en reparler. Malheureusement, c'est une situation extrêmement grave qui se déroule sous nos yeux et dont nous sommes en train de parler.
Merci beaucoup, Ari Ben-Semoun, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif d'Elnet France. Bon après-midi, à la semaine prochaine.
Merci.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Bye.
Radio J, l'invité du grand journal.
Radio J, Steve Nadjar.
Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur des universités, spécialiste du monde arabo-musulman. Et vous faites paraître aux éditions Plomb un livre intitulé Le bouleversement du monde. Un essai dans lequel vous analysez l'effet de souffle créé par la séquence ouverte par les massacres du 7 octobre en Israël, puis la guerre à Gaza. Un événement, Gilles Kepel, que vous aviez déjà essayé de saisir à chaud dans Holocaust, un ouvrage que vous étiez venu nous présenter il y a quelques mois à ce même micro. L'émissaire spécial américain au Moyen-Orient, Amos Hochstein, est aujourd'hui en Israël après un arrêt à Beyrouth. Hochstein considère que des progrès substantiels ont été réalisés ces derniers jours en vue de l'établissement d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Alors, question simple, mais à la réponse peut-être compliquée, Gilles Kepel, est-ce que vous êtes aussi optimiste que l'émissaire spécial américain ?
Oui, enfin, ce qui est assez étonnant, c'est que Hochstein est l'homme de Biden, donc avance vers une solution de ce type, mais derrière, vous avez Trump, qui est président élu, mais pas encore président à la manœuvre. Elon Musk, semble-t-il, a rencontré l'ambassadeur américain aux Nations Unies.
Ça iranien.
Été, iranien, pardon, excusez-moi, aux Nations Unies. Tout à l'heure. Ça a été démenti, mais apparemment la rencontre a eu lieu. Et en revanche, ce qui est à peu près sûr, c'est que M. Larijani, qui est le conseiller du guide, enfin, est venu à Beyrouth pour dire au Hezbollah, vous acceptez le cessez-le-feu. Et d'une certaine manière, on a le sentiment qu'aujourd'hui, l'affaiblissement de l'Iran, depuis que le Hezbollah, qui était son rempart, son glaive et son bouclier, a été très, très abîmé par l'offensive israélienne, même si ceux qui sont dans le sud sont toujours capables de tirer sur le nord d'Israël, hein, depuis le sud du Liban. Il y a des morts chaque jour, des civils, des soldats sur le territoire israélien, ce qui ne se produit pas
encore aujourd'hui.
Voilà. Néanmoins, en termes régionaux, la capacité offensive du Hezbollah, sa capacité de dissuasion pour protéger le territoire iranien n'existe quasiment plus. Et ça, ça change complètement la donne aujourd'hui. Et c'est ce d'ailleurs vers quoi Trump veut aller. Et pour ce qui est effectivement du cessez-le-feu au Liban, je crois qu'il va avoir lieu. Netanyahou s'efforce d'infliger le plus de coups possible au Hezbollah avant que ce cessez-le-feu ne soit signé. Chaque jour ou presque, on annonce la liquidation du chef des médias, du chef des tankistes, je ne sais autres, je ne sais quoi. Et il me semble que c'est certainement le front sur lequel les choses vont se calmer le plus rapidement possible. Mais pour Netanyahou, ça pose le problème. C'est que lui-même, au fond, est pris dans une espèce de spirale où il faut qu'il y ait de la guerre. Puisque tant qu'il y a de la guerre, on ne lui demandera pas de compte, pour l'instant, de faire sur ses responsabilités dans la survenue du 7 octobre. Et on voit bien comment aujourd'hui, justement, les choses se repositionnent en Israël de ce point de vue. Il a fait partir Gallant, puisque
ministre de la Défense.
Voilà, parce que c'était, comme on disait autrefois, l'adulte dans la pièce avec lequel les Américains voulaient traiter. Il n'était pas question qu'il traite avec quelqu'un d'autre que lui dans son gouvernement. On est en pleine recomposition politique en Israël, évidemment. Il y a la question des Haredim qui ne veulent pas aller au service militaire. Vont-ils être obligés de le faire, vont être convoqués? La question des colons aussi, et puis de la Cisjordanie, que les colons appellent la Judée-Samarie, et donc où effectivement il y a une opération qui se produit, et puis ce qui se passe à Gaza. Pourquoi aujourd'hui le nord de Gaza est-il complètement vide? Tous les habitants ont été poussés vers le sud. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est un grand point d'interrogation, si vous voulez, évidemment. Ça voudrait dire qu'on les pousse vers l'Égypte. L'Égypte n'a aucune envie de recevoir, évidemment, 1 voire 2 millions de Gazaouis. Quelles pressions sont en train d'être faites? Je n'en sais rien, mais on voit bien que des grandes manœuvres sont en train de se produire.
Est-ce qu'il y a une convergence, en tout cas temporaire, entre l'administration Biden et l'administration Trump pour aboutir le plus rapidement possible à un cessez-le-feu, à la fois au Liban et à la fois dans la bande de Gaza?
Alors c'est assez compliqué, on a l'impression que Biden est en train de prendre des options pour, comme on dirait en anglais, box in, c'est-à-dire coincer Trump de manière à ce qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut, voyez.
Un peu comme sur l'Ukraine aussi, avec
oui,
la décision exactement, d'usage
comme,
des missiles.
Comme, exactement, comme pour l'usage des missiles. C'est la même logique, semble-t-il. C'est difficile de dire. Je viens de passer 10 jours à Washington avant, pendant et après les élections. Ce qui m'a beaucoup frappé, par exemple, c'est que les gens que j'ai vus qui étaient dans le milieu trumpiste sont complètement différents des anciens néoconservateurs de l'époque Bush.
Gilles K. Kepel à retrouver ce soir à partir de 21h dans l'émission Géopolitique Le Mac que vous pourrez podcaster sur RadioJ.fr, sur Spotify et Apple Podcast et retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube.
Radio-J. Steve Nadjar.
Bonjour Franck Tapiro.
Bonjour Steve, bonjour les auditeurs.
Franck, merci de nous rejoindre comme tous les jeudis dans le Grand Journal. C'est un plaisir de vous recevoir. Franck, d'abord une réaction à cette annonce par la CPI de l'émission de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant ainsi que contre l'un des responsables du Hamas, Mohamed Daif.
C'est ce que j'avais annoncé le 22 mai 2024 où j'avais écrit cette pétition. C'est une tribune d'ailleurs dans Atlantico, une pétition de droit de mesure. On expliquait bien entendu le scandale que revêtait le fait de mettre sur le même plan les membres du Hamas, d'ailleurs qui sont morts les deux, hein, et Benjamin Netanyahou et Gallant. En gros, l'agresseur
c'était
a agressé.
C'était la demande de Karim Khan, le procureur.
De Karim Khan, mais qui a été suivi. Je l'avais dit, vous savez, ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on rêve un peu chez nous, je pense, dans la communauté. On croit toujours que la conscience va être plus forte que tout. Mais non, la haine des juifs est plus forte que tout. Et Karim Khan, surtout qui a été depuis, en plus, attaqué sur pas mal d'autres sujets, d'agression sexuelle, etc. Il est déterminé. Et la CPI, ben, la cour, elle va le suivre parce que c'est le procureur, donc ils le suivent. Et vous allez voir derrière, vous savez, la chaîne, la longue chaîne des emmerdes à répétition, que j'appelle le cumul de mandales. Mais vous allez voir, tous les pays, bah, ils sont signataires, donc de fait,
donc,
ils vont suivre.
Rappelons, Franck, il y a 124 pays qui sont signataires et qui sont censés donc appliquer les décisions de la CPI, notamment des pays européens, parmi lesquels la France est la même. Je le disais il y a quelques instants, la ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas a annoncé qu'elle l'appliquerait, et que les Netanyahou seraient arrêtés comme Gallant s'il entrait sur le territoire néerlandais. Est-ce que ça pourrait être le cas de la France?
Alors, oui, mais c'est une histoire de communication. Regardez, donc, logiquement, ils n'ont même pas besoin de faire une déclaration, puisque c'est de fait. En revanche, on fait une déclaration pour deux choses. Ou pour insister sur le fait qu'on va l'appliquer, ça veut dire à quel point on se positionne contre l'État d'Israël et contre ses dirigeants, ce que fait la Hollande, ça ne m'étonne pas.
Dans
la Belgique va suivre.
Le dernier pogrom à Amsterdam.
Mais bien sûr, la Belgique va suivre, dans le contexte. Et les gens croient encore au hasard, ils croient encore à une rixe entre supporters, alors qu'il n'y a pas de maillot des deux équipes sur les vidéos qui ont été tournées. Et les questions, ce n'est pas est-ce que tu es un supporter du Maccabi, mais est-ce que tu es juif. Donc, les mythomanes, ça va bien. À un moment, le monde, il est réel, ce qui se passe aujourd'hui. On a besoin d'être réaliste. C'est comme ça qu'on peut rester optimiste. Donc, encore une fois, on fait le déni de réalité, on va dans le mur. Là, aujourd'hui, il y a des pays, donc, comme la Hollande, qui vont affirmer à quel point ils vont le suivre. Vous allez voir que la Belgique va suivre.
L'Espagne,
et la France.
Peut-être.
La France a déjà annoncé, il y a quelques mois, reprenez, je l'avais dit ici, qu'il suivrait de fait les décisions du CPI. Donc, faut pas rêver. Il faut continuer. Je vais relancer la pétition que je n'avais pas arrêtée à l'époque parce que j'étais convaincu que la CPI, malheureusement, prenait cette mauvaise décision, ce qui est le cas. Donc, je le dis à l'antenne, je vais relancer tout à l'heure, après une vidéo, comme je l'ai fait pour la pétition pour le président de la République, expliquez-nous. On relance, on en était quand même à plus de presque 19 000, hein, 18 584 signatures. Il faut qu'on
débarrasse. En demandant à la France de ne pas appliquer cette décision de la CPI.
On a demandé de ne pas suivre. Ce serait l'honneur de la France de ne pas le suivre. Parce que on ne peut pas, nous, ça veut dire qu'on met au même niveau, encore une fois, le Hamas et Israël. Et donc, ça veut dire que Israël sont, des barbares, sont des bourreaux, sont des terroristes. Et donc, si on commence à aller là-dedans, ça veut bien dire que on a choisi son camp, pour pas faire de mauvais jeu de mots, c'est de mettre, finalement, le Hamas comme, finalement, un mouvement de résistance. Parce que quelque part, comme on sait qu'Israël est un pays démocratique, avec une armée régulière, avec des décisions totalement démocratiques, même si ça ne plaît pas plein de gens en Israël, c'est un vrai pays qui se défend face à une attaque terroriste. Les mettre au même niveau, ça veut dire quelque part qu'Israël l'avait bien cherché et que c'est la monnaie de la pièce. Donc en fait, on voit même, avec cette décision, qu'on vient donner un aspect juridique, alors que vous avez bien
le
vu.
Le cabinet Netanyahou dit à l'instant, compare cette décision de la CPI au procès d'Alfred Dreyfus.
C'est exactement cela. Parce qu'en fait, on accuse finalement la trahison d'Israël, ce serait de ne plus être un État démocratique et d'avoir agi comme un État terroriste. Comme on avait dit que Dreyfus était un traître à la nation, ce qui était faux. Donc moi j'attends vraiment de la France qu'elle ne commette pas une deuxième erreur après l'affaire Dreyfus qui a plus d'un siècle, et de dire que c'est pas qu'on s'oppose, c'est qu'on s'oppose pas à la décision, on s'oppose à la mise en accusation au même niveau des membres du Hamas, de ces terroristes, et des dirigeants israéliens. C'est ça, il fallait le faire avant. Alors maintenant que le mal est fait, est-ce que la France osera rétro-pédaler? Je vais vous le dire, et je prends mon risque, je ne le crois pas. Je pense que tous les pays vont suivre. Peut-être qu'il y aura une ou deux exceptions, l'Allemagne, je pense, va, on a vu botter en touche. L'Angleterre aussi, curieusement, de botter en touche. Mais vous verrez que, malheureusement, et j'espère me tromper, et je viens de dire ici, ben je me suis trompé. Mais je pense que tous les pays vont suivre. Donc c'est un scandale le plus. Là, il est très grave parce que ça veut dire mettre en prison Netanyahou et Gallant qui ont fait que se défendre suite à l'attaque terroriste du 7 octobre. Voilà dans quel monde on vit aujourd'hui.
Franck, vous vouliez également rendre hommage cet après-midi à Sébastien Selam Khadija Selam, assassiné le 20 novembre 2023. Il y a 21 ans maintenant.
Il y a 21 ans, j'ai été avec Madame Selam tout à l'heure au téléphone pour lui dire à quel point on était tous avec elle, à quel point on pensait à elle, on pensait aussi à Sébastien, qui s'appelait DJ Lamsé, hein, c'est le verlan de Selam, à quel point on lui envoie tellement d'énergie parce que, vous savez, mettez-vous à la place de cette dame qui a perdu un fils, mais qui a perdu un fils suite à, je dirais, mais un non-lieu juridique, comme il y en a eu beaucoup, avec Ilan Halimi. Parce qu'in fine, il y a quand même pas mal de gens qui sont encore en liberté aujourd'hui. Et puis avec l'autre affaire Halimi, avec l'affaire de Madame Halimi, Sarah Halimi, qui est exactement la même affaire. Donc aujourd'hui, on peut être fou, considéré comme fou, avec une abolition de discernement. Il y a deux choses. Ou abolition, ou vous savez, altération. L'altération, vous allez aux assises. C'est-à-dire qu'on pense que pendant un moment, il y a une petite altération. L'abolition, c'est on estime que vous n'avez plus du tout de discernement. Vous êtes fou.
Vous ne pourrez pas être jugé.
Donc. Vous ne pourrez pas être jugé. Mais c'est trop facile en France. Quand on est, en fait, islamiste et qu'on tue un juif parce que juif, donc on est considéré comme fou. Oui, c'est un acte de folie, la haine des juifs, mais c'est depuis bien longtemps. Ça n'est pas ce côté psychiatrique. C'est juste un côté pénal. Donc, on arrive à donner des circonstances atténuantes aux coupables. En supprimant les circonstances aggravantes de haine des juifs, ce qui est épouvantable. Donc, encore une fois, déni de justice, il faut que ça s'arrête parce que ça a été répétition. Et derrière, toujours le même expert, l'expert Zaghuri, qui était là pour Madame Halimi pour dire qu'il y avait abolition, qui était là pour DJ Lamsé pour dire qu'il y avait eu abolition, qui était là aussi pour Outreau, qui a expertisé les enfants sans jamais les avoir contactés. Il faut qu'à un moment, ce monsieur Zaghuri s'explique. Comment fait-il? Je ne sais pas. Moi, c'est assez curieux quand même.
Merci beaucoup Franck Taviro d'avoir été avec nous. Ping Pong à retrouver sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube.
Merci à vous.
À la semaine prochaine Franck.
Radio-J.
Le grand journal. Steve Nadjar.
Bonjour Khamis et Môme.
Bonjour à tous.
On vous retrouve pour Histoire du peuple juif. Focus avec vous sur la figure du roi Hizkiyahou.
Oui, alors un grand roi, un bon roi, on a eu l'habitude...
C'était assez rare ces derniers temps.
Oui, pour tous ceux qui suivent cette émission, ils se rendent compte que véritablement il y a ici un fait nouveau. Tout a changé. On a vu mourir la semaine dernière le roi précédent, Ahaz, et donc Hizkiyahou, en français, Ézéchias. Mais quel contraste il y a entre la conduite du nouveau roi et celle de son père et prédécesseur. Pendant les 29 années de son règne, puisqu'il règne aussi longtemps que ça, il cherche à réparer les fautes d'Ahaz. Il ramène le peuple à Dieu, au judaïsme, le Beth Amidash, le temple, qui avait été souillé par l'idolâtrie, qui avait même été fermé au culte et remis aux Kohanim et aux Lévi'im. On détruit les statues, les hauts lieux idolâtres que Ahaz avait multipliés dans le pays. Et le culte est réorganisé, tout recommence normalement. Il y avait même, à l'époque, dans le Beth Amikdash, il restait un vieux souvenir qui datait de Moshe, de Moïse. Alors on s'en souvient, dans le désert, les Juifs qui s'étaient écartés de Dieu avaient été frappés par lui par une épidémie. Et pour les guérir, il y avait eu un ordre de Dieu. En fait, des serpents étaient venus les mordre. Et pour les guérir, donc, Dieu avait ordonné de fabriquer un serpent de bronze mis sur un pilier. Et ce serpent, quand les Juifs le regardaient, cela leur rappelait leurs fautes et ça les faisait regarder le ciel, penser à Dieu. Et donc, cela les avait guéris. Bon, le serpent, ils l'avaient emmené avec eux. Et au cours des siècles, ils avaient fini par le considérer comme une espèce d'objet sacré. Ils lui offraient même de l'encens, comme si c'était une divinité.
C'était une forme d'idolâtrie, donc.
Bien sûr. Et donc, Hizkiyahou le voit et il le fait détruire, parce que c'est vraiment de l'idolâtrie. C'est aussi sous son règne qu'arrive quelque chose qui a laissé sa marque dans les récits que font nos sages, et qui est Pessah. Alors Pessah, c'est une fête qui normalement revient tous les ans. Mais à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du Temple, c'était une fête très solennelle. On offrait, chacun venait offrir son agneau, le fameux agneau de Pessah. Mais c'était vraiment une très grande fête, très importante. Malheureusement, avec les mauvais rois qui avaient précédé Hizkiyahou, tout cela s'était beaucoup apaisé, c'était beaucoup attiédi. Et cette fois-ci, Hizkiyahou décide d'en faire un exemple. Et on célèbre Pessah avec un enthousiasme, avec une ferveur qu'on n'avait plus connue depuis le règne du roi Salomon, ce qui était intervenu bien des années auparavant. C'est ainsi que le peuple retrouve la voie du judaïsme, la voie vers Dieu que Ahaz avait cherché à détruire constamment. Politiquement, il y a aussi du changement. Hizkiyahou parvient à reprendre les villes perdues sous le règne de son père. Il arrive même à se libérer de la tutelle de la Syrie, qui est alors la grande puissance. C'est sous son règne aussi que le royaume d'Israël, le royaume voisin, celui du Nord, est vaincu par les Assyriens et détruit, et que ses habitants sont emmenés en exil par Sennacherib en français. C'est le roi d'Assyrie. Il a conquis donc le royaume du Nord et il vient attaquer Jérusalem après s'être emparé de plusieurs places fortes qui lui fermaient le chemin. Hizkiyahou cherche à empêcher la guerre. Il paye un fort tribut, il donne sa propre fortune, vide le temple de ses trésors et voyant que Sennacherib veut le combat, alors Hizkiyahou se prépare. Il fait fortifier la muraille de Jérusalem et il fait détourner les sources d'eau pour approvisionner la ville à l'intérieur. L'armée assyrienne, qui est commandée par un homme du nom de Rabshakeh, met le siège devant la ville. Hizkiyahou essaye de parlementer, mais Rabshakeh ne veut rien entendre. Il cherche même à faire que le peuple se révolte contre Hizkiyahou. Mais les Juifs refusent bien sûr de se soumettre et les envoyés reviennent vers Hizkiyahou. Alors le roi, bien sûr, on se met à sa place, est très angoissé. Que va-t-il arriver? Il affronte la plus grande puissance de l'époque.
Pour terminer, Chaim.
Alors il demande conseil à Yishaya, le prophète du temps, et celui-ci le rassure. Et on verra comment cela s'est passé la semaine prochaine.
Ça va bien se terminer.
Bien sûr, ça va bien se terminer. Pour le moment, tout est évité. On sait que le Beth Amikdash sera, hélas, finalement détruit, mais c'est une autre histoire.
À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Chaim Nissembaum. Shabbat shalom.
Shabbat shalom à tous.
Radio J, 14h, 15h, Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Et c'est sur ces mots que s'achève votre grand journal. Merci à vous de l'avoir suivi.
Radio J.
Vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission en podcast sur notre site radioj.fr et sur toutes les plateformes de streaming quand vous le voulez. À suivre le morning. Je vous donne rendez-vous pour ma part à 14h en direct sur Radio J. Et d'ici là, portez-vous bien.
Le grand journal.
Le grand journal.
Steve Nadjar.
A long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs.
Yes, ma'am.
Je veux pas voir mes cheveux blanchis, mes mains par d'autres mains flétries, et rêver d'un lit comme d'une santé. Moi, je veux le portrait de Dorian Gray. Je veux vivre à l'extérieur d'un cadre, que la vie coule sans marquer l'âge. Je veux pas de rire, pas d'effet, comme Oscar Wilde en a rêvé. Je veux le portrait de Dorian Gray. Je veux pas voter pour l'UMP, je veux rester jeune et bien sapé. Je veux ressembler à Dorian Gray, je veux pas faire attention à tout. Rhumatisme et arthrose du genou, et manger des mars en secret comme un diabétique refoulé. Je veux le portrait de Dorian Gray. Je veux le portrait de Dorian Gray. Oui, moi, si j'étais Dorian Gray, je vendrais mes biens en viager. Je vendrai des crèmes pour les bras à des vieilles peaux plus jeunes que moi. J'écouterai Bob Dylan en jean dans une Volvo décapotée. On enviera mon sex-appeal même une fois l'andropause passée. Je passerai l'été à Saint-Tropez avec des top modèles anglais, des filles lascives cocaïnées qui me diront:
oh Gatan, you're so cute, my lovely little chicken.
J'aurai la classe d'un mafioso. Je serai vieux, ouais, mais je serai beau. Et mes enfants seront dégoûtés car je serai dans leur classe au lycée. Mais je ne suis pas Dorian Gray et je sens mes cheveux chuter. Les années font de mes abdos un ballon du FC Porto. Je comprends plus les vannes des jeunes, Lady Gaga, je sais pas qui c'est. Les filles trouvent que je suis pas fun parce que l'après-midi parfois je bois du thé. Non, je ne suis pas Dorian Gray. Non, je ne suis pas Dorian Gray. Dieu fera de mon visage le croquis d'un peintre raté. Quand il troublera mon image, mes nuits d'amour et mes idées. Quand il exercera sur mon âme sa perfidie de lord anglais. Quand il volera à ma mémoire les lieux, les gens que j'ai aimés. Ben je vieillirai, ouais je vieillirai. comme le bon vin prend des années. Mais mon cœur sera gorgé de secrets, et des jeunes viendront l'écouter. On me cédera à la place dans le métro, même à Châtelet quand il fait chaud. Peut-être même chanter à Bobino, devant mes fans sourds comme des peaux. J'aurai mes arrière-petits gosses qui joueront à cacher mon dentier, et moi je leur roulerai après, en disant bande de petits fumiers. J'aurai mes douleurs et mes joies sur mon front à jamais gravées. J'aurai la sagesse d'un arbre, et le bonheur des temps passés. Ah non, je veux plus être Dorian Gray, y'a pas de plaisir sans les années. Moi plus tard, je veux être juste que je peux. Moi plus tard, je veux.